Chapitre 3. Pourquoi avoir un job à la con rend-il souvent malheureux? Sur la violence spirituelle, 1. Les entreprises sont des organisations fascistes. Ce sont des sectes conçues pour dévorer votre vie. Les patrons entassent jalousement vos minutes, comme les dragons entassent de l'or. Nourri. Dans ce chapitre, je voudrais explorer certaines des conséquences morales et psychologiques qu'entraîne le fait d'être prisonnier d'un job à la con. Je souhaite notamment tenter de répondre à cette question évidente. Finalement, en quoi est-ce un problème? Ou, plus précisément, pourquoi tant de personnes semblent-elles en souffrir? Cela ne tombe pas sous le sens. Après tout, ces gens sont bel et bien payés, et souvent grassement, à ne rien faire. Ils pourraient s'estimer heureux, surtout si on leur fiche plus ou moins la paix. Pourtant, j'ai reçu très peu de témoignages de travailleurs s'émerveillant de la chance qu'ils avaient eue de décrocher un tel job. Beaucoup semblaient plutôt déconcertés par leur propre réaction. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils se sentaient si nuls ou déprimés. De fait, leur souffrance était accentuée par l'absence de motifs clairs, de récits à même d'expliquer ce qu'ils éprouvaient et ce qui clochait dans leur situation. Un galérien, au moins, sait qu'il est opprimé. Un employé de bureau, contraint de rester assis 7h30 par jour à faire semblant de taper sur un ordinateur pour un salaire horaire de 18 $, ou un consultant débutant obligé de donner le même séminaire sur l'innovation et la créativité semaine après semaine pour 50 000 $ par an, sont tout simplement désemparés. Dans un livre précédent sur la dette, j'ai évoqué le phénomène de la confusion morale. Tout au long de l'histoire, la majorité des gens semble avoir accepté les deux idées suivantes. 1. Rembourser l'argent qu'on a emprunté est une simple question d'éthique. Et 2. Quiconque fait profession de prêter de l'argent est un scélérat. Le problème des jobs à la con est plus récent que celui de l'endettement, mais je crois qu'il engendre une confusion morale comparable. D'un côté, tout le monde est encouragé à considérer que les êtres humains cherchent systématiquement à maximiser leur avantage, c'est-à-dire à se retrouver dans les situations dont ils peuvent tirer le plus grand profit au moindre coût en termes de temps et d'effort. De manière générale, c'est bien la supposition que nous faisons, en particulier lorsque nous parlons dans l'absolu. Mais voyons, on ne peut pas donner l'aumône aux pauvres si facilement, sinon ils n'essaieront jamais de se trouver un boulot. D'un autre côté, bien des aspects de notre propre expérience et de celle de nos proches contredisent cette hypothèse. Les actions et réactions des gens ne se conforment presque jamais à ce que prédisent nos théories sur la nature humaine. Raisonnablement, on est obligé d'en conclure que, au moins dans certains de leurs postulats de base, ces théories sont fausses. Dans ce chapitre, je veux non seulement tenter de comprendre pourquoi les gens sont si malheureux lorsque leur job leur paraît artificiel et dénué de sens, mais au-delà, réfléchir à ce que cette détresse nous apprend sur ce qu'est l'être humain et ce qui le meut. Histoire d'un jeune homme qui s'est vu offrir une véritable sinécure, mais n'a su qu'en faire. Commençons par le récit d'Éric, un jeune homme dont la première expérience dans le monde du travail a pris la forme d'un job absolument, viscéralement inutile, au point d'en être presque comique. Éric. J'ai eu un paquet de boulot atroce, mais le vrai, le pur job à la con dans toute sa splendeur, c'est mon premier emploi pro après l'obtention de mon diplôme il y a une douzaine d'années. Dans ma famille, j'étais le premier à être allé à l'université. J'avais une vision profondément naïve de la finalité de l'enseignement supérieur, du coup je m'attendais à ce que cela m'ouvre un tas d'horizons insoupçonnés. Tout ce que ça m'a offert, c'est des stages chez PricewaterhouseCoopers et autres KPMG. Pendant 6 mois, j'ai préféré toucher le chômage et dévorer des romans russes et français à la bibliothèque universitaire. jusqu'au jour où j'ai été forcé de me rendre à un entretien qui, malheureusement, a débouché sur un boulot. C'était un job d'administrateur d'interface dans une grande entreprise de design. L'interface, c'était un système de gestion de contenu. En gros, un intranet avec une interface graphique qui devait permettre aux 7 succursales de la société disséminées dans tout le Royaume-Uni d'avoir un accès partagé aux différents projets en cours. Rapidement, Eric a découvert qu'il ne devait son embauche qu'à un problème de communication au sein de la boîte. En effet, tout le système n'existait que parce que les divers associés étaient incapables de décrocher leur téléphone et de se coordonner. Autrement dit, Eric faisait office de rafistoleur. Eric. C'était une société en nom collectif, chaque associé gérant une antenne. Tous les partenaires semblaient être issus d'un même trio d'écoles privées et avaient fait les mêmes études de design, au Royal College of Art. C'étaient des quadragénaires aux dents longues, typiques des profils que produisent ces boîtes d'enseignement privées, toujours en train de se tirer la bourre pour remporter des appels d'offres. Il était arrivé plus d'une fois que des employés de deux antennes différentes se retrouvent nez à nez chez le même client pour présenter leurs projets respectifs et soient obligés de fusionner hâtivement leurs travaux sur le parking d'une zone industrielle lugubre. L'interface devait fluidifier la communication entre toutes les branches pour que ce genre de bourde et quantité d'autres ne se reproduisent plus. Mon boulot, c'était de participer à son développement, la faire fonctionner et la promouvoir auprès du personnel. Sauf que, très vite, il est apparu que l'interface était seulement la lubie d'un des associés. Les autres, plutôt que de se frotter à lui, avaient semblé donner leur aval, mais par derrière, ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour s'assurer qu'elle ne fonctionne pas. Le job d'Eric n'était donc même pas rafistoleur, c'était cocheur de cases. Eric. J'aurais dû me rendre compte que cet associé était le seul à vouloir que l'idée voie le jour. Sinon, pourquoi aurait-il embauché un diplômé d'histoire de 21 ans sans aucune expérience en informatique ? Ils avaient acheté le logiciel le moins cher qu'ils avaient pu trouver chez des escrocs finis. Du coup, c'était un système infesté de bugs qui plantait constamment et ressemblait aux économiseurs d'écran de Windows 3.1. Tous les employés de la boîte faisaient de la parano, persuadés que l'interface était là pour surveiller leur productivité, enregistrer leurs frappes ou les prendre en flagrant délit de téléchargement de vidéos porno sur le réseau de l'entreprise. Résultat, ils ne voulaient pas y toucher. Comme je n'avais pas l'ombre d'une connaissance en programmation ni en développement, je ne pouvais pas améliorer grand-chose. Donc globalement, je me retrouvais à promouvoir et à gérer une grosse bouse défectueuse dont personne ne voulait. Au bout de quelques mois, je me suis aperçu que je n'avais à peu près rien à faire de mes journées, sinon aider les designers à la masse qui n'étaient pas foutus de télécharger un fichier ou de trouver une adresse mail dans le répertoire. L'insondable absurdité de la situation l'a bientôt conduit à des actes de rébellion, d'abord subtils, puis tout à fait francs. Eric. J'ai commencé à arriver de plus en plus tard et à repartir de plus en plus tôt. La politique de la boîte autorisait une pinte au déj du vendredi. Je l'ai transformée en 3 pintes à tous les déj de la semaine. Je me suis mis à bouquiner des romans à mon bureau et à faire des promenades digestives de 3 heures. J'ai perfectionné mon français en lisant Le Monde, En Chaussettes, Le Petit Robert à portée de main. Quand j'ai essayé de présenter ma démission, mon boss m'a offert une augmentation de 2600 livres que j'ai acceptée à contre-cœur. Ils avaient besoin de moi justement parce que je n'avais pas les compétences requises pour mettre en œuvre ce projet dont ils ne voulaient pas. Et ils étaient prêts à payer pour me garder. On pourrait paraphraser les « manuscrits économico-philosophiques » de Marx qui datent de 1844. Pour éloigner le spectre de leur propre aliénation par le travail, ils devaient me condamner à une plus grande aliénation en m'interdisant toute croissance humaine. Petit à petit, Eric a commencé à adopter une attitude de défi de plus en plus ouverte, espérant commettre enfin la faute qui les pousserait à le virer. Il s'est mis à débarquer ivre au bureau et à se faire payer des voyages d'affaires pour honorer des rendez-vous fictifs. Éric. Un collègue du bureau d'Édimbourg à qui j'avais raconté mes misères, c'était à l'Assemblée générale annuelle, j'étais bourré, a commencé à m'arranger de faux rendez-vous. Un jour, on s'est retrouvé sur un terrain de golf près de Glen Eagles. Je me souviens que j'avais emprunté des chaussures trop grandes pour moi et qu'elles lacéraient le gazon. Comme ça n'a pas porté à conséquence, j'ai continué à organiser des réunions imaginaires, ce coup-ci avec des gens de l'antenne de Londres. La boîte me logeait dans une chambre empestant le tabac au St. Asaph's à Bloomsbury, et je passais mes journées avec des potes londoniens, comme au bon vieux temps, à écumer les pubs de Soho, des virées qui se transformaient souvent en nuit de beuverie à Shoreditch. Plus d'une fois, j'ai débarqué au bureau le lundi, vêtu de la même chemise que le jour où j'étais parti le mercredi précédent. Ça faisait un bail que je ne me rasais plus, et avec ma coupe de cheveux, on aurait pu me croire échapper du staff de tournée de Led Zeppelin. J'ai encore fait deux tentatives pour donner ma démission, mais chaque fois, mon patron m'a proposé plus de cash. À la fin, j'étais payé une somme insensée pour un boulot qui consistait tout au plus à répondre à deux coups de fil par jour. Un après-midi d'été, j'ai brusquement fondu en larmes sur le quai de la gare de Temple Meads à Bristol. J'avais toujours voulu voir cette ville, du coup, je m'étais programmé une visite dans nos bureaux là-bas pour faire le point sur le ressenti des utilisateurs. En vrai, j'ai passé 3 jours sous extasie dans une fête anarcho-syndicaliste organisée dans une maison du quartier de St. Paul's. Ce sont les hallucinations, puis la descente qui m'ont fait réaliser combien cette existence stérile, sans rime ni raison, me foutait en l'air. Au prix d'efforts héroïques, Éric a enfin réussi à se faire remplacer. Éric. À force de pression, mon boss a fini par accepter d'engager un jeune gars fraîchement diplômé en informatique pour tenter d'améliorer notre interface graphique. Sitôt le gamin arrivé, je lui ai dressé la liste de ce qu'il y avait à faire et dans la foulée, j'ai rédigé ma lettre de démission. Je l'ai glissé sous la porte de mon patron dès qu'il est parti en vacances, abandonnant ma paye à côté du téléphone au lieu de faire ma période de préavis réglementaire. Quelques jours plus tard, je me suis envolé pour Essaouira au Maroc, où je me suis appliqué à ne rien faire. En rentrant, j'ai vécu 6 mois dans un squat, cultivant mes propres légumes sur un terrain de 12 km². J'ai lu votre article de Strike dès sa parution. C'était peut-être une révélation pour certains de découvrir que le capitalisme crée des jobs inutiles afin de s'assurer que la roue continue de tourner. Pour moi, ce n'en était pas une. Beaucoup seraient tentés de voir dans le boulot d'Éric un job de rêve. Il était bien payé à se tourner les pouces, et ce pratiquement sans aucune surveillance. Il était traité avec respect et avait de multiples occasions de gruger. Malgré tout, la situation l'a détruit à petit feu. Pourquoi ? Je crois que cette histoire nous parle essentiellement de classe sociale. Éric, jeune homme d'extraction modeste, ses parents étaient ouvriers d'usine, rien de moins, frais émoulu de l'université et plein d'espoir, a connu une introduction soudaine et chaotique dans le monde réel. La réalité, en l'occurrence, c'était ça. Il n'était pas surprenant que, dans l'esprit de cadre d'âge mûr, tout gamin blanc d'une 20aine d'années était forcément, au moins à un certain degré, un as de l'informatique, même s'il n'avait aucune formation dans ce domaine, comme c'était le cas ici. B. Par conséquent, ils étaient prêts à le gratifier d'une situation franchement pépère, tant que cela servait leurs objectifs du moment. C. Pourtant, son job n'était rien d'autre à leurs yeux qu'une vaste blague. Et ce, au sens quasi littéral du terme. Si Éric avait été embauché, c'est parce qu'une poignée de designers avait décidé de jouer une bonne grosse farce à l'un d'entre eux. Mais ce qui le rendait fou par-dessus tout, c'était de devoir conclure que, dans quelque sens qu'il retourne les choses, son boulot ne lui servait strictement à rien. Il ne pouvait même pas se dire qu'il faisait ça pour nourrir sa famille. Il n'en avait pas encore. Issus d'un milieu où la plupart des gens étaient fiers de fabriquer, entretenir et réparer des objets, ou en tout cas pensaient que c'était de ces activités que l'on devait tirer sa fierté, il avait cru que ses études à l'université, puis son entrée dans la vie professionnelle, lui permettraient de faire ce genre de choses avec peut-être plus de grandeur et de majesté. Au lieu de cela, il avait été embauché précisément pour ce qu'il ne savait pas faire. Il avait tenté de démissionner, on lui avait offert encore plus d'argent. Il avait tenté de se faire virer, pas moyen. Il avait voulu leur mettre le nez dedans, devenir une caricature de ce pour quoi il semblait le prendre. Cela n'avait eu aucun effet. Pour bien comprendre ce qui est en jeu ici, imaginons un autre jeune diplômé d'histoire placé exactement dans la même situation, mais issu, lui, de la classe moyenne. Appelons-le l'anti-Éric. En quoi se serait-il comporté différemment? Selon toute probabilité, il aurait accepté de jouer la comédie. Il n'aurait pas utilisé ses voyages d'affaires arrangés pour s'adonner à diverses formes d'autodestruction, mais pour accumuler du capital social, des relations qui, au bout du compte, lui auraient ouvert la voie vers un meilleur poste. Il aurait pris ce job comme un tremplin, et c'est un projet d'avancement professionnel qui lui aurait donné un but. Mais il ne s'agit pas là d'attitudes ou de dispositions innées. Elles sont inculquées aux enfants de la classe moyenne dès leur plus jeune âge. Éric, lui, ne pouvait pas agir ni penser ainsi, parce qu'on ne le lui avait jamais appris. Cela explique qu'il ait préféré aller faire pousser des tomates dans un squat, du moins pour un temps. Après avoir écrit ces lignes, j'ai soumis mon analyse à Éric, qui l'a validée en ajoutant quelques précisions. Je voyais bien que, aux yeux des fils de bourgeois qui occupaient des échelons inférieurs, ce job était une rampe de lancement pour une évolution de carrière. C'était très clair notamment à la manière dont ils nouaient des relations autour du travail. Qu'ils aillent regarder des matchs de rugby dans des pavillons de banlieue le week-end ou boire des cocktails dans des bars de mauvais goût, l'objectif était toujours le réseau, le réseau, le réseau. Pour certains, ce taf était juste un moyen commode de remplir un blanc dans leur CV en attendant qu'un membre de leur famille leur trouve une meilleure place. Personnellement, je trouve intéressante votre idée de classe aidante. La première réaction de mon père quand j'ai démissionné, ça a été de me traiter d'indécrottable idiot parce que je laissais tomber une excellente paye. Mais juste après, il a ajouté « En même temps, ce job, il ne fait de bien à personne. » Sur une note plus positive, Éric peut maintenant se targuer de 2 diplômes de 3e cycle, d'un poste de chercheur à l'université et d'une brillante carrière. Et il pense les devoir en grande partie à ce qu'il a appris sur les théories sociales pendant son séjour dans le squat.